Le mai d'après mai 68, dernière, avec Danny Cohn-Bendit, enregistré à l'ULB en 2008, soit 40 ans après mai 68. Vous êtes à l'auditoire Paul-Émile Janson et nous sommes le mercredi 4 juin 2008.
Bonsoir. Vous avez pas de bol. Parce que j'en ai ras-le-bol de 68. Alors je sais que ça peut sonner un peu arrogant. J'ai d'ailleurs fait un petit livre, enfin d'ailleurs c'est un long interview qui a été retravaillé, qui s'appelle « Forget 68 », un titre très français, mais qui a l'avantage de pouvoir être traduit dans tous les pays. C'est une invention très 68-art de Marc Ritein. Vous n'avez pas besoin de changer le titre. « Forget », tout le monde comprend, et « 6 et 8 », tout le monde comprend. Et c'est la première chose qu'il faut qu'on ait en tête, parce que c'est vrai qu'on dit commémoration de 68, etc. Ce que j'ai expérimenté, moi, personnellement, c'est que 68, ce phénomène, parle à tout le monde dans toutes les sociétés. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, mais moi, je ne suis pas du tout de l'héritage de 68, tout ça, c'est vrai. Mais c'est quand même fascinant que cette date ait une référence un peu partout. Et pourquoi ? Alors, évidemment, on peut dire, ça a commencé en 67 en Allemagne, il y a eu Berkeley en 67, etc. Mais pourquoi ça a tellement résonné ? Il faut quand même se rappeler tout ce qui s'est passé. Si je prends que l'année 68. L'année 68 commence en mars 68 par la révolte des étudiants polonais qui occupent l'université. Les étudiants polonais se révoltent parce qu'une pièce de théâtre d'une centaine d'années a été interdite par le pouvoir polonais et donc ils occupent l'université et là, après l'occupation, la police intervient, les leaders sont arrêtés, grande répression, vague massive d'antisémitisme en Pologne, organisée par le Parti communiste polonais. Et donc, ça a été le premier moment d'une remise en question du communisme qui se terminera dans les années 80 par l'émergence de Solidarność et de la fin du communisme en Pologne. Mars. Puis vous avez des événements en Allemagne, en avril, vous avez la tentative d'assassinat contre Rudi Dutschke et les manifestations qui ont suivi. Vous avez en permanence des révoltes aux États-Unis, dans les campus, vous avez des révoltes des Noirs. Vous avez, alors je saute les dates, mais pour dire dans la logique, vous avez en 68 l'assassinat de Martin Luther King, vous avez l'assassinat de Bob Kennedy. Vous avez en 68, alors évidemment, l'émergence de ce qui s'est passé en France, la plus grande grève générale, et là je fais une parenthèse sur la France. Vous savez, les Français, et ça j'ai compris que très tard, les Français, mais je dis bien tous les Français, de droite, de gauche, ils sont fiers de 68. Mais ils sont fiers de 68 comme ils sont fiers des centrales nucléaires françaises. Comme ils sont fiers des TGV français, comme ils étaient fiers du Concorde. C'est-à-dire que 68, c'est extraordinaire, puisque nous, Français, nous avons réussi la plus grande grève qui n'ait jamais existé dans l'histoire. Les Français sont fiers quand ils ont réussi quelque chose qui n'a jamais été aussi grand quelque autre part. Donc, voilà. Et ça, la droite comme la gauche, vraiment, est pris aux tripes par 68 d'une manière qui... Je vous raconte juste une anecdote. J'avais été donc expulsé pendant 10 ans de France. Non, c'était pas grave. Hein. J'étais en Allemagne, je vivais bien, j'étais amoureux là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Mais après la levée de mon interdiction de séjour, donc, je suis dans le train... pas tout de suite après, et puis d'un coup, arrivé en gare de l'Est, quelqu'un met la main sur l'épaule et me dit « Ah, je vous ai reconnu dans le train, M. Cohn-Bendit et tout ça. Vraiment, il faut que je vous dise quelque chose. Pour moi, 68 a été un moment déterminant dans ma vie. » Je dis « Bien, c'est bien pour moi aussi, tout ça. » Et on commence à parler un peu. Et tout d'un coup, il me dit « Mais il faut que je dise une chose. Moi, j'étais de l'autre côté. J'étais capitaine de CRS. » Et je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, parce que c'est vrai qu'on... Il y en a beaucoup de chez nous qui ont tapé très dur, mais vous étiez fascinant. Parce que vous nous posiez les questions de la vie, de pourquoi on vivait. Et que nous, on était à un endroit où effectivement, on était obligé de remettre un peu d'ordre, parce que vous devez avouer que vous foutiez quand même le bordel. Mais que vous posiez les questions qui nous interpellaient. Et je crois que, si vous voulez, cette anecdote est la raison pourquoi cette société française n'arrive pas à s'extirper, parce qu'on se demande, enfin, il y a 160 bouquins qui ont paru sur 68, là, maintenant. Alors, ça fait 40 ans. Alors, imaginez ce que ça va être à 50. Hein? Et comme, quand même, le livre qui a été déterminant sur la Révolution française a été écrit par François Furet plus de 2 siècles après la Révolution, et que la France a mis 2 siècles à comprendre avec François Furet que la Révolution française était finie, moi, je me suis juré de réaliser le tour de passe-passe qu'avant ma mort, la France comprenne que 68 est fini. Donc, vous voyez, j'ai quand même... Mais je continue. Donc, vous aviez... Et puis après, tous ces phénomènes, vous avez le Mexique, la révolte des étudiants au Mexique, vous avez les Jeux Olympiques, vous avez les Noirs américains aux Jeux Olympiques, vous avez Prague, vous avez l'intervention russe, etc., etc., etc. Donc c'est une année folle en événements. Chaque événement en soi mérite ou a son anniversaire. Donc quand on fait, quand on dit « mais pourquoi 68 ?», c'est parce que, et ça peut-être qu'on pourra l'expliquer à un moment, c'est parce que dans ce moment historique de 68, c'est-à-dire 23 ans après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le monde a changé de rythme. Le monde a changé de rythme parce que les générations de l'après-guerre, je dis « les » parce que dans différents pays, ont remis en cause, ensemble, d'une manière différente, les modes de vie imposés par la génération qui ont fait ou qui ont subi la guerre. Et donc, quand on parle de révolte anti-autoritaire, c'est une révolte, en fait, d'une génération qui n'a pas vécu la guerre. Et ça, c'est pas à définir en tant que reproche. C'est à définir de comprendre ce phénomène historique d'une génération qui n'a pas vécu la guerre et qui a dit aux générations de la guerre qui ont été les victimes de la guerre, qui ont subi les drames de fausse politisation, qu'elles aient été, parce que pour une partie de la société allemande, le nazisme était une révolution, une volonté de changement de la vie, de changement radical, horrible. L'autre, les autres qui avaient été les grands, disons, les acteurs de différentes révolutions prolétariennes, etc., pour eux aussi, un monde s'effondrait. Et donc vous avez quand même, avec l'intervention des troupes russes en 68, à Prague, c'est la fin de toute possibilité de réforme du socialisme. Le rêve du socialisme démocratique est mort à Prague par les chars russes. Tout le monde savait qu'après, toute critique radicale de ce développement dans les pays totalitaires communistes serait une critique qui remettait profondément en cause le communisme. Et toute critique radicale qui s'exprime dans les années 60 face au capitalisme remet une remise en cause fondamentale du capitalisme. Et c'est là, et moi j'ai toujours les larmes aux yeux quand je vois Castoriadis, c'est là où il faut comprendre que cette pensée, cette émergence de l'autonomie, de cette volonté d'autonomie dans les années 60, en 68, eh bien, cette émergence, elle a été théoriquement, non pas pensée, mais pressentie par cette génération Castoriadis, Lefort, Edgar Morin, qui, et d'autres, dans des revues comme Socialisme ou Barbarie, Arguments, etc., qui ont participé à la déconstruction radicale de l'idéologie la plus contestataire du capitalisme, du marxisme. Ils sont partis du marxisme, ils étaient marxistes, et dans leur évolution, dans leur pensée, dans leur critique du marxisme réellement existant, qui étaient les partis communistes et les pays communistes, et dans leur critique radicale du capitalisme tel qu'on l'a entendu à la fin par Castor, eh bien, ils s'émancipent du marxisme et en même temps, ils me donnent la possibilité de m'émanciper de la tradition révolutionnaire de gauche. Et en même temps, ils nous positionnent dans une posture radicalement anticapitaliste, comme on le disait à l'époque. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a une femme qui n'a pas existé pour nous en 68, pour beaucoup d'entre nous, et qui aujourd'hui, tout d'un coup, est le grand témoin, si on veut, des erreurs, des évolutions de la pensée politique. Il s'agit d'Hannah Arendt. Et elle n'existait pas à cette époque. Pourquoi ? Parce que Hannah, je m'excuse de la familiarité, mais c'était une très bonne copine de mon père, a très tôt développé à un certain niveau quelque chose qui, beaucoup plus tard, inconsciemment, sera repris par les meilleurs du mouvement écologiste, a développé toute une théorie de la critique la plus radicale et l'acceptation des structures de la démocratie et des institutions de la démocratie. Car dans toute, si vous voulez, l'évolution, la critique Castoriadis, vous voyez, et dans le débat que j'ai eu avec lui à Louvain-la-Neuve, c'est là où il y a une grande différence entre nous, malgré la filiation et pour moi l'admiration que j'ai pour lui, c'est que Castoriadis rêve d'un autre monde, radicalement, où justement la société autonome, où l'autonomie nous pousse à la société autogérée, dépassant les structures démocratiques, les structures des institutions démocratiques, telles que nous la connaissons, jusqu'au parlementarisme. Et Hannah Arendt, alors qui a dit une phrase quand même très belle pour tous ceux qui veulent être toujours révolutionnaires, qui dit « Les révolutionnaires les plus radicaux deviennent, le lendemain de la révolution, les conservateurs les plus radicaux. » Ce qui est évident. Et si vous voulez, elle nous explique, et avec elle on verra, comment on arrive à un moment à ce que différentes théories et critiques radicales, en fait, deviennent, pour l'écologie politique, des piliers fondamentaux. Mais pour en arriver là, il faut bien comprendre que, ça a été dit par plusieurs personnes, et vous l'avez lu et vous l'avez entendu, 68, plus qu'une réalité de l'autonomie, c'est un désir d'autonomie. C'est un désir d'autonomie presque inconscient. Tellement inconscient que ce désir peut s'adapter dans des panoplies les plus absurdes. Il faut le faire. Désirer la liberté, l'autonomie et brandir comme exemple la révolution culturelle chinoise, il faut le faire. Ou alors, désirer la liberté et l'autonomie et brandir le plus grand symbole sexuel, Che Guevara, et savoir que derrière, il y a cette idée de l'homme nouveau, qui est derrière toute la théorie guévariste, il faut le faire. Alors, je vous passe après des admirateurs de la Corée du Nord, du Vietnam du Nord. Je vous passe de la tendance pro-chinoise albanaise. Je vous passe toutes les folies. Pourquoi ? Parce que nous pouvons rire, nous devons rire, nous devons ridiculiser cette dimension. Et quand Althusser a écrit, qui avait réuni autour de lui la crème de la crème de la pensée normalienne française, qui a écrit « Pour Marx et lire le Capital », juste avant de mourir, il a écrit quand même une autoconfession où il a confessé qu'il n'a jamais lu Marx. Et je crois que c'est vrai. Mais ce n'était pas important, parce qu'il y avait une posture à prendre à un moment, une posture qui se greffait sur un désir réel et authentique. Et c'est ça qui a ouvert la brèche dans les différentes sociétés. D'ailleurs, la brèche est le livre sur 68 le plus intéressant. Ce livre a été écrit, apparu en juin 68. Les auteurs, Castoriadis, qui s'appelait Coudray à l'époque, il avait un peu la folie de la clandestinité parce qu'il était grec et il croyait qu'on allait l'arrêter, etc. Tout le monde savait que Coudray, c'était Castoriadis, hein, mais c'est pas grave. Il y avait Edgar Morin et Claude Lefort. Et c'est important parce que Claude Lefort devient, en arrivant aujourd'hui, quand même le penseur le plus radicalement arendtien de la pensée démocratique française. Claude Lefort, en tant que jeune, je vous fais ça parce que je crois que c'est, si on comprend ces penseurs, on comprend en tout cas pourquoi après on peut arriver à dépasser mai 68. Claude Lefort, dans les années 50, très jeune, est un assistant de Merleau-Ponty, de philosophie, et participe à la rédaction des Temps modernes. Et il a écrit un texte sur les camps de concentration en Russie. Le directeur des Temps modernes s'appelle Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre interdit la parution du texte de Claude Lefort dans les Temps modernes. Et questionné 20 ans plus tard, pourquoi, s'il ne savait pas que c'était vrai qu'il y avait des camps de concentration, Sartre dit, eh bien, il faut savoir que des fois, on a raison d'avoir tort. Parce que, pour lui, classiquement, s'attaquer à l'Union soviétique, c'était du temps des communistes et la paix, c'était faire le jeu de l'impérialisme. Et vous avez ces jeunes intellectuels qui s'émancipent, dès cette époque, de cette pensée manichéenne. Et c'est cette émancipation-là qui, en fait, a été le moment le plus fort de 68. Donc, pour moi, le concept de l'autonomie n'est pas un concept d'individualisme. Le concept de l'autonomie, c'est la liberté de l'individu de définir individuellement et collectivement ses perspectives de vie. Donc, c'est un concept, en fait, qui donne à l'être humain, qui reprend donc toute une partie de la théorie sartrienne, existentialisme, de la responsabilité de l'individu, qui donne à l'être humain la responsabilité de ce qu'il fait, et qui contredit le marxisme pour qui, en fait, le déterminisme historique est une logique qui, de toute façon, amènera à l'effondrement du capitalisme. En 68, si on comprend pourquoi, en fait, c'est le début de la fin du marxisme et le début de la fin du communisme dans nos sociétés occidentales, c'est parce que s'affrontent d'une manière très violente ces conceptions déterministes du changement social, c'est-à-dire, en fait, la conception marxisme que l'histoire très hegélienne doit effectivement, parce que le capitalisme n'est pas capable de réaliser l'évolution technique, l'évolution sociale nécessaire pour maintenir l'homme avec un grand H, dans ses perspectives historiques, doit s'effondrer. Donc, la révolution est une objectivement nécessaire et donc arrivera menée par son parti qui dirigera cette révolution et qui donne, dans la perspective révolutionnaire, une définition scientifique du changement social. Le changement social, ce n'est pas une utopie anarchiste, volontariste, de petits bourgeois, mais c'est quelque chose qui se définit, s'explique scientifiquement. Contre cela, la théorie castoriadiste qui évolue après tout ça, et Edgar Morin, qui, le troisième donc de la brèche, qui devient quand même, 40 ans plus tard, qui devient le penseur de l'écologie, de la complexité de l'écologie. Donc c'est pas une construction a posteriori que je fais de l'importance de cette pensée, c'est que je crois que c'était fantastique, que ces trois penseurs nous ont aidés à nous émanciper de l'objectivisme marxiste et donc nous ont renvoyés à notre responsabilité individuelle et collective. Alors évidemment, cette pensée de l'autonomie, pour l'instant, n'est pas du tout une pensée de l'écologie politique. Moi, en 1967, je manifestais contre le nucléaire militaire, pour l'utilisation pacifique du nucléaire pacifique. Et je crois que la majorité des gens de ma génération pensaient un peu la même chose. Il y a d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le lire, mais dans le gauchisme, Remède à la maladie sénile du communisme, un livre que j'ai écrit avec mon frère en été 68, il y a toute une partie où je fais l'éloge de l'automation et qu'on allait se libérer du travail parce que nous aurions des usines automatiques où le travail se ferait automatiquement et donc on aurait le temps de vaquer à nos occupations parce que de toute façon, la production nécessaire se ferait grâce à une évolution extraordinaire de la science, etc. Donc, rien de Serge Moscovici, critique de la science, remise en question de la science, tout ça, pour nous, ça n'existe pas. Je veux dire, on est là, traditionnellement, de gauche. Alors, il y a après une rupture individuelle. Vous avez donc, après l'effondrement, dès 68 dans tous les pays, vous avez une remise en question de cet espoir révolutionnaire. Car en fait, et pour beaucoup, et ça c'est pas dit, alors que c'est une vérité, vous avez quand même symboliquement beaucoup de gens qui, dans les années 69, 70, 71, se sont suicidés. Vous avez une partie de gens de ma génération qui n'ont pas supporté le choc de l'impossible de la révolution. Aujourd'hui, ça paraît encore pire. Le problème, c'est quelles sont les pistes qui peuvent nous amener à penser l'avenir. Ce choc, donc, nous a fait revenir, non pas en arrière, mais à la recherche d'une émancipation individuelle. C'est quoi ? C'est on veut vivre autrement. Et c'est la rupture avec, si vous voulez, toute la théorie même de l'école de Francfort, Adorno. Adorno qui nous dit « Il n'y a pas « Es gibt kein richtiges im Falschen »« Il n'y a pas quelque chose de juste dans une vie qui n'est pas juste. » C'est-à-dire que si le monde n'est pas juste, vous ne pouvez pas vivre bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire la révolution pour que dans un monde solidaire, social, etc., la vie redevient une perspective positive. Eh bien, face quand même à ce mur d'attendre une révolution impossible, improbable, on renverse la théorie, dit si on peut vivre autrement, on peut se sortir de la société. C'est-à-dire, c'est toutes ces expérimentations des sociétés alternatives. C'est toute l'expérimentation des communautés, de créer d'autres familles. La vie privée devient non seulement politique, mais devient l'espace d'une expérimentation sociale. Mais non pas d'une expérimentation sociale individuelle. l'espace d'une expérimentation sociale collective. Et donc, la création de jardins d'enfants anti-autoritaires, des réflexions sur la pédagogie, etc., etc. Dans cette période, il y a aussi, d'une manière inconsciente, chez beaucoup d'entre nous, une idée qu'en fait, on peut s'exfiltrer de la société officielle. On peut s'exfiltrer du monde officiel. On peut vivre à côté. Et puis tout d'un coup, je passe rapidement, hein, et peut-être dans la discussion, on rattrapera un peu les raccourcis, etc. Ce monde-là est rattrapé par le monde réel. Le symbolique le plus réel de ce monde, c'est Tchernobyl. Alors évidemment, en France, c'est plus compliqué, puisque la centrale nucléaire ukrainienne connaissait exactement le tracé de l'hexagone français et n'a donc pas touché la France, comme nous ont expliqué les nucléocrates français de l'époque. Mais en Allemagne, c'était pas ça. Et en France non plus, d'ailleurs, et ça a été ressenti rapidement. Mais il y avait tout d'un coup une angoisse, c'est-à-dire que, pour la première fois, Tchernobyl a mis sur la table quelque chose pour beaucoup d'entre nous, qui est, on ne peut pas s'exfiltrer de ce monde. La construction sociale, scientifique de ce monde est quelque chose qui nous englobe et que notre vie, notre collectivité ne peut ignorer cette réalité qui nous englobe. À partir de là, toute une partie de ce mouvement des années 60, puis du mouvement alternatif, se pose la question d'une politique devant, en reprenant la critique par le nucléaire, d'une politique de l'écologie politique. Et là, ça devient intéressant. Parce que tout d'un coup, nous sommes confrontés à quelque chose qu'on n'attendait pas. L'écologie politique, en fait, n'est pas quelque chose que l'on puisse réduire ou que l'on puisse introduire ou que l'on puisse dissoudre dans le paradigme gauche-droite. Ça ne fonctionne pas. Car l'écologie politique, c'est quoi ? Et cette réflexion, c'est la planète détruite. La perspective de la planète détruite, c'est capitaliste ou pas, patron ou femme de chambre, tout le monde est pris par ce développement. Donc l'intérêt, la formulation de la défense de la planète est quelque chose qui transcende les catégories politiques traditionnelles. Ça ne veut pas dire, je le dis maintenant, et si je ne l'ai dit pas 36 fois tout à l'heure, vous me le répéterez, ça ne veut pas dire que la division gauche-droite n'existe pas. C'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il y a une dimension politique qui transcende cette définition du politique en gauche et en droite. Et là, tout d'un coup, une nouvelle lecture des théoriciens conservateurs parlant de la nature, parlant d'une structure, justement, il y avait un Allemand qui s'appelait Herbert Kroll, qui était sorti, qui venait des chrétiens démocrates, qui avait fait tout un livre sur la destruction de la planète. Eh bien, tous ces penseurs, tout d'un coup, deviennent, à côté de nos lectures traditionnelles, des penseurs, disons, remettant en cause nos structures. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait un chemin aussi venant de gauche pour remettre en cause toute sa théorie, c'est André Gortz. Et tout d'un coup, vous avez dans la théorie d'André Gortz, vous avez pour nous quelque chose de salvateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'existentialisme, vient de la gauche, remet en cause toutes ces catégories face justement aux défis de notre monde. Et alors, si je me rappelle bien, Giscard d'Estaing a été élu en 1974. Et la veille de l'intronisation de Giscard d'Estaing, André Gortz, qui était journaliste au Nouvel Observateur, écrit Dans le Nouvel Observateur, sous le nom de Michel Bosquet, c'était ton nom de journaliste, le discours d'intronisation que doit faire Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, si vous lisez ça, vous avez tout le programme de l'écologie politique qui se développera après dans les années 70 et après dans les années 80. Donc, nous sommes maintenant à un moment crucial de l'évolution de notre pensée. Le moment crucial, c'est de l'autonomie à l'écologie. Rappelez-vous le débat Louvain-la-Neuve avec Castor. Et après, de l'écologie à la nouvelle formulation d'une pensée politique. Et là, maintenant, je reviens à Hannah Arendt. Il y a deux possibilités de penser radicalement le changement. Une possibilité, c'est la révolution. Il y a un événement social, une grande confrontation, et le peuple, quelqu'un prend le pouvoir change, et une nouvelle société peut se mettre en place. Étant donné que nous sommes un peu chatouillés par toutes les expériences sociales et que quelqu'un qui vient, comme moi par exemple, du mouvement libertaire, j'ai été jamais communiste, au contraire, j'ai toujours été anticommuniste, mais nous, on a toujours été pour... Alors, nos exemples, c'était la Catalogne libre, 36, les conseils ouvriers de 17, les soviets en Russie, les marins de Kronstadt, c'était les conseils ouvriers en Bavière dans la révolution allemande, jusqu'au conseil ouvrier en 56 dans la révolution hongroise. Seulement si vous mettez ça bout à bout, tout d'un coup vous dites, mais c'est tous des perdants. Nous, on était plus sympas, mais on était avec les losers de l'histoire. C'est-à-dire que plus quelqu'un avait perdu, plus ils étaient sympas pour nous, mais il ne faut pas dire que c'était une perspective historique qui nous permettait de penser de vraiment vaincre. Et à partir de ce moment, il y a une remise en question de la réflexion révolutionnaire et on en arrive à comment un changement peut-il se faire dans les structures d'une démocratie représentative. La Révolution française a été un changement fantastique. La France a mis plus de 2 siècles à donner le droit de vote aux femmes. Donc ça ne s'est pas fait automatiquement. Il y avait visiblement un problème. Au moment où le Front populaire en 1936 se pose la question du droit de vote des femmes, la gauche dit non au droit de vote des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes votent avec les curés et donc ça serait la fin de la gauche majoritaire en France. Voilà l'explication. Donc c'est pas rétrospectivement, c'est une certaine vision de la société qui était la vision d'une certaine France qui a duré et qui perdure peut-être jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un problème qu'on peut vraiment poser. Donc, je dis par là qu'à partir du moment où nous sommes obligés à repenser les fondements du changement social et de mettre ce fondement en rapport avec ce qu'on appelle les démocraties et la représentativité, nous en arrivons à la dimension de l'écologie politique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire d'influer le changement par des réformes de société qui, en même temps, deviennent des réformes qui sont adoptées par des majorités. Nous nous soumettons à la logique politique de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça s'appelle non pas le capitalisme, mais la démocratie. Si tu dis que le capitalisme, c'est la démocratie, tu perds l'arme fondamentale pour battre le capitalisme. Donc moi, je fais une différence là très claire. Et pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment, et nous en arrivons à la société d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes qui nous paraissent insurmontables. Soyons sérieux. Dégradation climatique. Nous savons tous que si l'Europe adopte le paquet décidé il y a quelques mois, ça serait un progrès incroyable, mais d'une insuffisance incroyable. Nous ne voyons pas pour l'instant les forces capables d'aller plus loin. Nous avons toute une renaissance du débat nucléaire. Nous avons, si nous voyons aujourd'hui tous les débats sur l'énergie chère, l'essence, le prix de l'essence, nous avons l'impression que l'innovation radicale, repenser la semaine de 4 jours, comme ça on n'est pas obligé d'aller pendant 5 jours au travail, mais que 4 jours, les économies d'énergie qu'on ferait, etc. Donc une redistribution du temps de vie pour justement que la possibilité de vivre et le coût de la vie se réduisent par un espace de liberté qui te permet de faire des tas de choses que tu ne dois pas acheter. Donc une remise en cause dans la logique de la remise en cause de la société de consommation. Tout cela, on a l'impression que ça a disparu dans le nirvana de l'angoisse et de la peur. Et c'est pour cela que je crois que les partis écologiques, les mouvements écologiques, qu'ils soient des partis ou qu'ils soient des organisations non gouvernementales, etc., doivent allier quelque chose de nouveau qui, pour moi, serait une radicalité de la pensée, une radicalité de la proposition et une radicalité de la capacité de faire de la politique et donc de faire du compromis. Et c'est ça qu'on n'a jamais compris dans tous ces mouvements et ces débats entre intégristes, fondamentalistes ou réalistes, etc. Ne peut être réaliste politiquement que qui est un fondamentaliste théorique. C'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs profondes en lui ou collectives qui nous permettent de faire de la politique. Si je n'ai pas de valeur, ma politique, c'est du troc, c'est de l'échange, elle n'a aucune structure. Si je veux faire de la politique, si je veux que mes valeurs soient mises en place, il n'y a qu'une réponse, c'est la dictature écologique, puisque de toute façon, la majorité des gens ne veulent pas comme ça. Donc la seule, et c'est là où vous retrouvez de 68 à aujourd'hui, toutes les composantes de l'évolution de la pensée telle que moi, d'autres, on l'a vécu, on l'a ressenti. C'est-à-dire de camper sur cette idée d'autonomie individuelle et collective, de camper sur cette idée fondamentale que nous sommes maîtres de notre vie pour le bien et pour le mal. Nous sommes responsables de l'évolution pour le bien et pour le mal. Ça dépend de ce que nous faisons. En même temps, nous sommes contraints et nous devons intégrer complètement, mais je dirais presque d'une manière libidinale et positive, le jeu de la démocratie. Alors le jeu de la démocratie, ce n'est pas simplement du parlementarisme. Ça, c'est un espace. Ce sont les mouvements sociaux, c'est l'espace public, c'est l'intervention publique. C'est-à-dire que nous sommes contraints d'imposer et d'essayer de mener nos sociétés par les discours que nous sommes, la capacité justement du discours, du contenu que nous mettons dans la société. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tout le monde dit « oui, mais tout le monde parle par exemple maintenant du développement durable », et alors les Verts se disent, les uns comme ça, mais c'est quand même, ils sont tous faux culs et tout ça. Non ! Quand on gagne, il faut dire qu'on a gagné. Si à partir du moment où le développement durable, ou si à partir du moment où la réflexion sur l'écologie devient le mainstream, devient la pensée nécessaire par laquelle tous les partis doivent passer, eh bien leur problème à nous, c'est de dire... Dans cette concurrence, dans cette compétition dans l'espace public, nous n'avons qu'une solution. Est-ce que nos propositions sont les plus claires, les plus lucides, et donc celles qui peuvent justement organiser l'adhésion collective d'une partie de la société? Il y a 45 ans, j'ai assisté à New York un enterrement. 4 jeunes blancs avait été assassiné dans le sud des États-Unis alors qu'il militait pour les droits civiques des Noirs, pour que les Noirs puissent voter. Imaginez qu'il y a 45 ans, c'était un enterrement assez beau, il y avait John Baez, Bob Dylan est passé à chanter, enfin c'était assez fascinant, mais c'est pas de ça que je veux parler. Imaginez qu'il y a 45 ans, c'était avant le fameux « I have a dream » de Martin Luther King, mais imaginez Martin Luther King dans son « I have a dream » et dit « Une fois, aux États-Unis, un Noir sera président des États-Unis. » Il y a 40 ans, tout le monde aurait dit « Les dés sont pipés. » Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je sais que beaucoup d'entre nous est les États-Unis, pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Mais si cette société, en novembre, est capable d'élire Barack Obama président des États-Unis, moi je dirais chapeau. Chapeau à cette société qui a su surmonter l'horreur du racisme pour faire d'un noir le président de la République. Moi je trouve que ça donnait confiance que les choses évoluent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais qu'elles évoluent positivement et que le monde regardera le racisme, regardera l'esclavage d'une autre manière, qu'on peut surmonter cela, qu'on peut aller. Et c'est ça la force de son discours. C'est ça la force de son discours. Alors, je dis ça parce qu'il y a des tas de choses qui nous séparent après de Barack Obama. Je veux dire que c'est pour ça que les dés ne sont pas pipés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, capables d'influencer le cours des choses. Mais nous sommes capables d'influencer si nous sommes capables en même temps de répondre, et c'est par là que je veux finir, à l'angoisse des gens. L'angoisse aujourd'hui, alors je ne parle pas seulement des jeunes, parce qu'on dit toujours, moi j'en ai marre des gens qui viennent me dire, ouais mais en soi, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas politiques, ce qui existe. Cette phrase de journaliste, etc. Pourquoi ? En 68, le chômage, on ne connaissait pas. En 68, le sida, on ne connaissait pas. En 68, la dégradation climatique, on ne connaissait pas. En 68, la monstrueuse évolution de la mondialisation, on ne connaissait pas. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, en 68, qu'est-ce qu'on disait ? Notre avenir nous appartient. Que disent les jeunes aujourd'hui ? Où est notre avenir ? Et c'est ça, c'est à cette question que la société doit répondre. Où est notre avenir ? Et que nous, les Verts, nous ne sommes pas là pour pleurer sur les difficultés, mais si l'on veut réussir, nous sommes là pour proposer des pistes pour qu'on ait tous un avenir. Donc d'être dans le positif non pas dans la facilité, mais dans la perspective de dire « oui, la réduction de travail a des effets positifs sur la société. Oui, la remise en cause de la consommation la plus bête a des effets positifs. Et si nous sommes capables d'interdire toutes ces voitures pitbull, les 4x4 et tout ça dans nos villes, eh bien, nous montrerons à quel point nous sommes capables de penser à un avenir. Oui, nous sommes capables d'inventer quelque chose. Et là, et j'en finis par là, le préfet de police Grimaud, mai 68 à Paris, en 67, écrit un texte. Il est préfet de police, qui n'a rien à voir, et il me dit, je l'ai rencontré là, il n'y a pas longtemps, c'était très émouvant. Il me dit, mais Dany, tu sais quel était mon problème en 67 ? Je voulais interdire les voitures dans la ville de Paris. Je disais que nos sociétés et nos villes ne peuvent pas continuer avec ces voitures dans les villes, nous détruisons notre espace de vie avec ces voitures. 67, préfet de police de la ville de Paris. Alors, vous voyez que on a notre avenir devant nous. Qu'aujourd'hui, dans le débat politique, il faut qu'on soit dans nos propositions, qu'on ait l'audace de la radicalité. Oui, les villes de demain seront des villes pratiquement sans voiture. Oui, nous défendons cette idée. Alors après, on verra comment on y arrive et on verra ce que disent les uns et les autres. Je sais que c'est difficile. Oui, demain, nous arriverons à la semaine de 4 jours. Oui, demain, nous serons dans une société où l'entraide ne sera pas une entraide charitable et chrétienne, mais sera une méthode de vie et de survie de toute la société. Oui, nous serons intégrés dans des formes de vie collective ou de soutien, nous serons intégrés les jeunes, les plus jeunes et les plus vieux. Car c'est vrai, on ne va pas refaire la vieille famille, mais le fait que nos sociétés sont des sociétés, alors je parle à la première personne maintenant, hein, qui on va vivre avec 80, 85, 90 berges, ben ça veut dire qu'une autre idée du social doit se définir, se développer. On ne va pas quand même continuer dans cette folie de société qui ne s'identifie qu'aux jeunes et qui laisse de côté toute une partie de la société du fait qu'ils sont vieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé. On est complètement surpris, non seulement nos systèmes de protection sociale, tout notre système de pensée est surpris par ces évolutions démographiques, etc., etc. De 68 à aujourd'hui, nous avons hérité de quelque chose de formidable, c'est de la pensée, de la réflexion, des contradictions. Si aujourd'hui, nous voulons être capables d'oublier 68, je dis, oublions les épiphénomènes. Oublions ou faisons-nous plaisir pendant 5 minutes. C'est vrai que c'était extraordinaire. C'est vrai que c'était jouissif. C'est vrai. Mais ce qu'on doit sauver de cette réflexion, c'est notre capacité à surmonter la fainéantise intellectuelle. Et moi, ce qui me rend le plus triste, c'est quand vous voyez dans certains pays que aujourd'hui, face aux difficultés, on est un retour en arrière de la pensée. On devient un traditionnalisme. On revient à un traditionnisme social du toujours plus. Hein, pour répondre à la pauvreté réelle, c'est du toujours plus, du quantitatif. Et ce n'est pas le quantitatif face aux problèmes que nous avons qui va nous sauver. Donc, comment être, répondre à l'angoisse et répondre aussi à une certaine pauvreté et en même temps répondre à l'angoisse de toute la société face justement à ces dégradations, à cette angoisse de la dépernition de la planète. Et face à la dépernition de la planète, le quantitatif n'est pas la réponse. La peur non plus n'est pas la réponse, c'est l'imagination la réponse. Et j'en finis par là, on gagne si on met l'imagination au pouvoir. Merci.
C'était Danny Cohn-Bendit, enregistré le 4 juin 2008 à l'auditoire Pauline-Janson de l'ULB à Bruxelles, dans le cadre des grandes conférences écologiques organisées par Etopia.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.